les podcasts de Radio Courtoisie. Diane de Bourguedon, chronique de la prolophobie, les clichés prolophobes de Mélenchon.
Chers auditeurs, je vais vous parler de prolophobie, cette petite musique désagréable que personne n'assume vraiment de jouer, mais que l'on peut tous entendre pour peu d'y prêter l'oreille. Et l'interprète du jour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques jours, à l'antenne de Radio Nova, le président des Insoumis a expliqué l'échec de son mouvement dans la France rurale face au succès du RN en déclarant « En zone rurale, on a plus vite fait de s'enfermer entre soi, entre gens du même avis, entre gens de la même famille, que dans les villes. » Fin de citation. D'un côté, les campagnes, de l'autre, les villes. Deux sociologies, deux écosystèmes, deux mondes qui ne se ressemblent pas. Ce n'est certainement pas sur ce constat que nous lui jetterons la pierre. C'est Christophe Guillouis qui a le premier montré que le clivage politique en France se doublait d'une fracture géographique et sociologique. Les cartes ne mentent pas. Elles se superposent parfaitement et révèlent de manière limpide l'existence de deux France, métropolia et périphéria. D'un côté, les gagnants de la mondialisation, citadins, diplômés, relativement aisés. De l'autre, les perdants, déclassés et appauvris, qui vivent à l'écart des métropoles. Ceux-ci, qui jouissent et se réjouissent de l'évolution de la France, ceux-là, qui pleurent et la déplorent. Ce constat est également repris par François Ruffin, qui parle, lui, de la France des tours face à celle des bourgs. Fracture qui n'a pas échappé non plus au conseiller de Raphaël Glucksmann. Une note interne, sitôt dévoilée, sitôt reniée, recommandait en effet aux candidats socialistes de se concentrer ses efforts de campagne sur les CSP+, autrement dit les urbains diplômés, plutôt que sur les classes populaires. Notons que Mélenchon a un train d'avance puisque, dès 2024, il avait préconisé de laisser tomber les électeurs des zones rurales. « Nous perdons notre temps », avait-il glissé en marge d'une manifestation. Contrairement au PS, LFI assume donc ouvertement de ne plus s'adresser à la France des petites villes et des villages. Pour expliquer la déconfiture de son parti dans la France périphérique, Mélenchon ne va pas dire que la gauche a abandonné le prolétariat de souche au profit du prolétariat d'ailleurs, le fameux prolétariat de substitution désigné par Terra Nova. Il ne va pas dire que la gauche a remplacé la lutte contre les inégalités sociales par celle contre les discriminations et micro-offenses en tout genre. Il ne va pas dire que la gauche est sourde aux doléances des petites gens d'ici, mais s'active à importer des conflits venus d'ailleurs. Il ne va pas dire que la gauche est complice de la globalisation qui a détruit l'emploi en France. Il ne va pas dire que la gauche encourage la haine de la police et l'impunité des délinquants. Il ne va pas dire enfin que, face à cette gauche qui ne fait que trahir le peuple depuis 40 ans, le RN est l'un des seuls partis à lui tendre et l'oreille et la main, ce qui lui vaut accusation de populisme. Plutôt que de reconnaître l'entière et immense responsabilité de la gauche dans sa désaffection par les couches populaires, plutôt que de concéder une once d'autocritique, Mélenchon préfère incriminer la France rurale. S'il vote RN, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est de la leur. Ne nous laissons pas berner par la fausse bonhomie du personnage. Lorsqu'il finit par admettre sur Radio Nova, dans un élan soudain de bienveillance envers les électeurs du RN, que les gens font bien ce qu'ils veulent et qu'il ne lui viendrait pas à l'esprit de leur reprocher leurs idées. Rappelons plutôt les propos tenus par ce même Mélenchon sur les habitants d'Hénin-Beaumont après son échec cuisant aux législatives de 2024. On ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Ils étaient presque tous obèses, transpiraient l'alcool dès le matin et sentaient mauvais. Voilà qui en dit long sur le fond de sa pensée et le mépris qu'il éprouve pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Pour rester dans le registre olfactif, nous dirons qu'on peut déceler, dans ses propos récents, des relents prolophobes. Décryptons-les. Selon lui, les habitants des grandes agglomérations seraient ouverts d'esprit, enclins au débat, habitués au choc du contact, comme il dit. En bref, des êtres supérieurs. Alors que ceux de la France rurale vivraient reclus, assignés à résidence, prisonniers physiquement et culturellement d'un monde arriéré. Ils votent RN parce qu'ils seraient bas de plafond, bornés, incultes, parce qu'ils n'auraient pas le patrimoine culturel suffisant, comme l'avait dit sans filtre Laurence Bloch, l'ancienne directrice de France Inter. Et quand Mélenchon prétend que les ruraux s'enferment entre gens de la même famille, on n'est pas très loin de la suggestion d'une forme de consanguinité. Peut-être celle qui, justement, engendrerait les Français tout blancs, tout moches, n'est-ce pas, monsieur Mélenchon ? Faisons un petit jeu et remplaçons dans sa phrase « zone rurale » par « banlieue ». Cela donnerait « en banlieue, on s'enferme entre soi, entre gens du même avis, la même famille ». Que n'entendrait-on pas comme accusation de mépris social ? Les critiques pleuvraient de tous côtés. Halte aux amalgames ! Halte au racisme même ! Mais quand c'est la France périphérique qui est stigmatisée, la voie est libre. Personne pour dénoncer la prolophobie, personne pour s'alarmer du mépris de classe qui frappe toujours les mêmes, ceux que dans les hautes sphères on appelle en ricanant les ploucs. Mélenchon ne risque rien à brocarder les Français ordinaires, puisque tout l'establishment en fait de même. Des éditorialistes aux publicitaires, des humoristes aux scénaristes, tout le monde s'acharne sur un seul bouc émissaire, le même, depuis le dessin de Cabu en 1974, le beauf. Alors que l'on traque la moindre discrimination, on laisse la prolophobie prospérer. On s'indigne volontiers des stéréotypes lorsqu'ils visent les minorités dites opprimées, mais lorsqu'ils s'abattent sur la majorité ordinaire, ils sont parfaitement tolérés. Comme le dénonce la juriste américaine Joanne Williams, le mépris de classe est le dernier préjugé socialement acceptable. Se moquer des accents, des coutumes locales, des goûts populaires, ce n'est pas mal vu du tout dans les dîners mondains. C'est au contraire une façon de montrer patte blanche, de revendiquer son appartenance aux élites. Certes, on dira que le snobisme a toujours existé et qu'il sévit dans toutes les couches sociales. On est toujours le plouc de quelqu'un, comme j'ai coutume de le dire. Mais il me semble qu'autrefois, il ne s'exprimait pas de manière aussi décomplexée. Il était tempéré par une sorte de décence, une retenue qui faisait partie de l'éducation traditionnelle, celle qui était dispensée partout et notamment dans la bonne société. Le mépris social était contenu aussi parce qu'auparavant, toutes les classes sociales se croisaient, se fréquentaient. Comment aurait-on pu se moquer sans vergogne de celui que l'on côtoyait tous les jours ? L'éloignement géographique rend les Français des champs étrangers aux Français des villes et rend les Français des villes indifférents au sort des Français des champs. Cet éloignement est propice à la circulation d'idées préconçues et d'amalgames, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, qui ne sont jamais démentis faute de confrontation. Un mépris réciproque s'installe. Et lorsque le mépris devient un langage commun, il cesse d'être perçu comme tel et devient le bruit de fond d'une époque. Une petite musique dissonante et pourtant jouée partout.
C'était Diane de Bourguedon pour les chroniques de la prolophobie, les clichés prolophobes de Mélenchon. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.